VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, envisage de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique. Le point avec Solange Niamoulissa.
Après sa rencontre avec le président Faustin Archange Touadéra, Jean-Pierre Lacroix a dit qu'il va informer le Conseil de sécurité de la situation et revenir vers lui. D'après le chef des opérations de maintien de la paix, ces mesures peuvent se traduire par une demande d'éléments additionnels. 9 casques bleus ont été tués depuis mai dans la région de Bangassou, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. M. Lacroix a par ailleurs annoncé que l'ONU est en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer quelques 600 soldats congolais rentrés à Brazzaville suite à des accusations d'abus sexuels. La MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, compte plus de 12 000 soldats et policiers pour aider le pays à sortir de la spirale des violences meurtrières.
Au Rwanda, plus que quelques jours avant l'élection présidentielle de vendredi, les candidats mettent l'accent sur l'économie dans les derniers jours de la campagne électorale. Le président sortant Paul Kagame est donné gagnant par la plupart des analystes. Battant campagne dans la province du Nord hier, il a fait appel à la fierté nationale pour transformer le Rwanda. Un de ses adversaires, Franck Habineza, du Parti démocratique vert, était lui dans le sud du pays, où il s'est engagé à réduire les impôts des pauvres, appuyer les petits commerces et réduire le chômage. La campagne au Rwanda prend fin demain 2 août. Le Kenya est entré dans la dernière semaine d'une campagne électorale tendue en vue des élections générales du 8 août, notamment la présidentielle qui s'annonce serrée entre le chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Cette réédition du duel de 2013 a donné lieu à une campagne acrimonieuse, l'opposition accusant le camp de M. Kenyatta de préparer des fraudes électorales. Allégation qui a favorisé l'instauration dans le pays d'un climat d'appréhension alimentant les craintes de violences électorales. Ces élections, par lesquelles les Kenyans vont élire leur président, gouverneur, députés, sénateurs, élus locaux et représentants des femmes à l'Assemblée, ont lieu 10 ans après celle de 2007, où l'opposition déjà amenée par Raila Odinga avait crié à la fraude à l'annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. Kenya toujours, les États-Unis, le Royaume-Uni et 2 ONG internationales réclament une enquête sur le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale du Kenya. Les détails avec Eric Manirakiza.
C'est dans une déclaration conjointe que les deux pays ont exprimé leur grave préoccupation sur l'assassinat de Chris Msando, chargé de superviser le système électronique d'identification des électeurs et de comptage des voix. Se félicitant de l'engagement de Nairobi à mener l'enquête, les États-Unis et le Royaume-Uni ont promis leur aide. Même son de cloche de Human Rights Watch et Amnesty International, les deux organisations exigent une enquête d'urgence et précise que ce meurtre devrait amener les autorités à renforcer la sécurité du personnel de la commission électorale. Chris Msando avait disparu le week-end et son corps a été retrouvé samedi par la police. Il a fallu 48 heures pour l'identifier. Monsieur Msando était supposé tester hier le système électronique de vote.
La Chine a inauguré aujourd'hui à Djibouti sa première base militaire à l'étranger aux portes de la mer Rouge, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. L'ouverture de la base a été marquée par une cérémonie en présence du numéro 2 de la marine chinoise, Tian Zhong, et du ministre de la Défense de Djibouti. La marine chinoise est présente depuis fin 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden, dans le cadre des efforts internationaux pour combattre la piraterie dans cette région. Mais cette base logistique est la première du genre pour Pékin. Les autorités du Malawi ont émis hier un mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente Joyce Banda. Elle est accusée dans un énorme scandale de corruption qui a précipité sa défaite en 2014. Morgan Guiriek.
D'après James Kadadzera, porte-parole de la police, les preuves rassemblées par les services fiscaux rendent l'ex-présidente suspecte d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent. Pour les besoins de l'enquête, la police a lancé hier un mandat d'arrêt contre Mme Joyce Banda, qui vit ici, aux États-Unis. En 2013, près de 30 millions de dollars ont disparu des caisses de ce pays pauvre d'Afrique australe. Des dizaines de fonctionnaires, d'hommes d'affaires et de dirigeants politiques ont été cités dans ce scandale, surnommé le Cashgate. De nombreux pays ont cessé leur soutien au Malawi, dont le budget dépend à 40% de l'aide étrangère. Cette affaire avait contribué à la défaite de la présidente Joyce Banda en 2014 face à son adversaire, Peter Mutharika, qui s'est engagé à lutter contre la corruption.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, deux journalistes ivoiriens ont été interpellés et détenus lundi à Abidjan pour divulgation de fausses informations, après avoir écrit que les comptes du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, étaient gelés. C'est ce qu'a annoncé le syndicat des journalistes en question. Dans nos pays, directeur de publication de Le Quotidien, organe d'opposition, et Yves Couillot, journalistes ont été gardés pour être présentés ce mardi au procureur de la République, a expliqué à l'AFP Guillaume Bateau, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Et puis au Burkina Faso, poursuite des travaux de construction de la centrale photovoltaïque du Burkina, lancée en juin 2016. Avec ses 33 MW, cette centrale solaire serait la plus importante de l'Afrique subsaharienne. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
C'est à Zakouli, dans la banlieue de Ouagadougou, que se situe le site de la centrale photovoltaïque du Burkina. Suivons avec Abdoul Kader Traoré, le chef du chantier, la présentation physique des lieux.
La centrale comprend 129 600 modules ou panneaux photovoltaïques. Ces 129 600 modules sont répartis sur 1800 tables. Ces 1800 structures sont raccordées à 16 centres de production intégrés ou CPI. Donc ces 16 CPI pays vont collecter l'énergie photovoltaïque produite par les modules, les transformer en courant alternatif et les élever en tension pour diminuer les pertes lors du transport et va les véhiculer dans un poste qu'on appelle poste solaire, c'est-à-dire toute l'énergie produite par la centrale photovoltaïque sera collectée, conduite dans ce poste solaire. Et à partir de ce poste solaire, on va maintenant faire une injection sur le réseau Sonabel.
Les Burkinabés sont habitués au délestage. Alors, cette centrale va-t-elle mettre fin à leur calvaire? C'est la question que nous avons posée à Boussim Bernard. Il est de la Société nationale d'électricité du Burkina, la Sonabel.
La centrale sera un parc de production. Ce parc-là va produire chaque année 56 MW, ce qui représente 5% de la production actuelle du Burkina Faso. Donc vraiment, ça va soulager un temps soit peu la population du Burkina Faso.
Quelle place occupe cette centrale en Afrique de l'Ouest? Alpha Omar Dissa, le ministre de l'Énergie, explique.
La centrale des Aptouli reste la plus grosse centrale d'Afrique subsaharienne. C'est une centrale de 33 MW. Nous avons regardé la situation du Burkina. Nous voyons que c'est un pays qui a un ensoleillement important de 5,5 kWh par mètre carré par jour. Nous pensons que nos coûts de production à partir donc du DDO et du HFO sont très élevés. Donc nous sommes orientés dans un mix énergétique qui va permettre d'un côté de pouvoir donc augmenter le taux de pénétration du solaire dans le mix énergétique et de l'autre côté de travailler à aller vers des centrales à gaz qui vont nous permettre également de diminuer le coût de production, mais également de travailler avec les pays voisins qui produisent de l'hydroélectricité moins chère, mais également à partir du gaz moins cher.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant. À Washington, à peine arrivé à son poste, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, a quitté ses fonctions hier lundi après seulement 10 jours à la tête de son équipe. Scaramucci a été forcé de partir à la demande de John Kelly, le tout nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, affirme le New York Times. Jean-Roger Bion fait le point.
Monsieur Scaramucci a défrayé la chronique la semaine dernière à cause d'une interview dans laquelle il insultait copieusement plusieurs collaborateurs du président Trump sur un ton d'une rare vulgarité. Il s'en était pris à l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, Ryan Scribner, en le qualifiant de schizophrène, paranoïaque, mais aussi à Steve Bannon, le très controversé conseiller spécial du président. Selon le New York Times, c'est le remplaçant de Monsieur Scribner, John Kelly, un général des Marines à la retraite et jusqu'alors ministre de la Sécurité intérieure, qui a exigé que M. Scaramucci quitte son poste pour asseoir son autorité. M. Kelly a été nommé pour remettre de l'ordre dans une maison blanche déchirée par la lutte intestine, souvent étalée au grand jour dans la presse à coups de fuite. Donald Trump avait réfuté toute idée de chaos lundi matin dans un tweet.
Et pour terminer, un système de métro léger sera opérationnel à l'île Maurice à partir de septembre 2019. Ce sera annoncé officiellement lundi le Premier ministre mauricien Pravin Jugnauth. Le métro léger doit relier la capitale Port-Louis à la ville de Kuopib dans le centre de l'île sur un tracé de 26 km. Son coût, 460 millions d'euros. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Allô!